France Info.
Notre invité jusqu'à 9h est vice-président de la région Île-de-France, chargé de la sécurité, ancien directeur de la police nationale et candidat sur la liste des Républicains aux Européennes. Il est en 9e position. Renaud Délier est à mes côtés pour l'interroger.
Bonjour Frédéric Pechenard.
Bonjour.
Samedi, la 18e journée de mobilisation des Gilets jaunes a donc été marquée par un nouveau déchaînement de violence sur les Champs-Élysées à Paris. Matignon, hier soir, a reconnu des dysfonctionnements dans le dispositif de sécurité. Et ce matin, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, chez nos confrères d'RTL, a fait son mea culpa.
Oui, forcément, c'est un échec. Oui, c'est un échec, mais il faut... Je veux souligner tout ce qu'on a fait depuis le début, et puis tout ce qu'on va faire maintenant pour améliorer les choses. Voilà. Mais on est toujours déterminés, on est au poste. Moi, je regarde les difficultés, je les regarde en face. J'ai pas l'habitude de tourner le dos quand il y a des difficultés.
Frédéric Pechenard, selon vous, pourquoi le gouvernement a-t-il failli ?
D'abord, je crois qu'il faut replacer un petit peu les choses dans leur contexte. Je ne fais pas partie de ceux qui critiquent systématiquement l'action du gouvernement. J'ai été commissaire de police pendant 30 ans, j'ai été directeur général de la police pendant 5 ans, je connais bien l'extrême difficulté du maintien de l'ordre et la difficulté du métier de policier, auquel d'ailleurs on peut rendre hommage, parce qu'après 18 semaines épuisantes, aussi bien physiquement que moralement, eh bien les policiers et les gendarmes tiennent toujours. Il n'en demeure pas moins que au bout de 18 semaines, je pense que les choses sont devenues absolument insupportables. Je suis, vous l'avez dit, vice-président de la région, je suis aussi élu de Paris, je suis élu du 17e arrondissement, et ça fait 18 semaines que, avec Geoffroy Boulard, le maire du 17e arrondissement, nous allons à la rencontre de nos administrés, des citoyens, des Parisiens qui veulent juste vivre en paix. Voilà. Et ça devient réellement insupportable. J'ai entendu Laurent Nunez, je prends acte de ce qu'il a dit, j'attends que les choses s'améliorent, mais c'est un échec, mais c'est le 18e échec. Et c'est ça qui rend les choses insupportables.
Pour essayer de bien comprendre, Frédéric Pechenard, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avant-hier ? Est-ce que c'est une question de moyens humains, d'armes à disposition des policiers ou des gendarmes, ou une question de stratégie ?
Je pense que c'est surtout une question de stratégie. Il y avait 5000 policiers et gendarmes sur le terrain qui sont tous des gens aguerris. Il y a une partie de compagnie républicaine de sécurité et de gendarmes mobiles qui sont des professionnels du maintien de l'ordre. Il y avait les gens de la brigade de recherche et d'intervention, des compagnies d'intervention de la préfecture de police qui connaissent parfaitement le terrain. Ce sont des policiers formés, efficaces. Vous vous rendez compte, la masse, 5000, est pourtant un échec complet. Donc on voit bien que le sujet, c'est pas tellement les hommes, ni même les moyens, c'est la stratégie. Pourquoi ? Le maintien de l'ordre, c'est quelque chose qui est statique, parce que vous encadrez des manifestants et vous êtes là pour laisser les manifestants manifester tranquillement. Vous êtes là aussi pour les protéger. Et depuis 18 semaines, eh bien, on considère que les gens qui viennent sur les Champs-Élysées, qui viennent dans Paris, sont des manifestants pacifistes. Ce n'est pas vrai. Ce sont des émeutiers. Ce sont des délinquants. Quand vous mettez le feu à des voitures...
Pas tous les manifestants, Frédéric Pechenard.
Hier, tous. Hier, je n'ai vu personne sur les Champs-Élysées qui ne participait pas. Hier, les gens qui étaient là cautionnaient. J'ai vu des magasins pillés, samedi. J'ai vu des forces de l'ordre attaquées, j'ai vu des magasins et des immeubles brûlés, et j'ai jamais vu personne qui s'est opposé, à part les policiers, qui s'est opposé au déchaînement de violence.
En termes de stratégie, ça veut dire quoi, Frédéric Pechenard ? Qu'il faut les interpeller dès lors qu'ils arrivent sur les lieux ?
Bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut les traiter comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire non pas des manifestants, mais des émeutiers, des délinquants. Ça signifie qu'il faut avoir un dispositif qui soit dynamique et non pas statique. Ça signifie qu'il faut donner des ordres clairs aux policiers et aux gendarmes d'interpellation dès le départ. Une fois que vous avez laissé 4 ou 5 000 personnes se réunir, c'est évidemment beaucoup plus difficile d'intervenir.
Il y avait 10 000 personnes avant-hier à Paris, vous mettez tout le monde en garde à vue.
Mais s'il le faut, oui. S'il le faut, oui. D'ailleurs, ça aurait dû être fait depuis le début. Ça, il y a une tentative à un moment donné de le faire.
Au nom de quoi on met 10 000 personnes en garde à vue, y compris des gens qui potentiellement n'ont rien fait au moment où vous les arrêtez.
Quand vous participez, alors il ne s'agit pas d'arrêter tout et n'importe quoi.
Vous dites tous ceux qui sont venus sont complices ou ont participé.
Tous ceux qui participent à un attroupement. Qu'est-ce que c'est ? Une manifestation, c'est quelque chose qui est déclaré. Voilà, qui peut être d'ailleurs interdite le cas échéant.
C'était pas le cas à Paris, c'était pas déclaré.
Ça veut dire que quand vous avez des gens qui se rassemblent, en plus on a un petit peu d'ancienneté, ça fait 18 semaines que ça dure, donc on sait exactement ce qui va se passer, si vous voulez. Et là, vous avez des gens qui viennent se rassembler, qui n'ont pas d'autorisation, ça s'appelle un attroupement. C'est-à-dire qu'une fois que les policiers et les gendarmes ont fait les sommations, la participation à un attroupement devient un délit. C'est un délit en soi. Vous êtes là, c'est un délit. Si vous avez le visage dissimulé, eh bien, la peine de prison est plus importante. Et si vous êtes porteur d'une arme, elle l'est encore plus. Si. Donc il n'y a pas d'autre possibilité que d'avoir une vision dynamique de ces choses-là et de traiter ces gens qui ont mis Paris à feu et à sac samedi, comme d'ailleurs les 18 samedis précédents, de les traiter comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des délinquants. Et oui, il faut se donner les moyens, peut-être pas d'en arrêter 10 000, mais si dès le départ on en arrête 1 000 ou 2 000, j'étais directeur général de la police, le préfet de police Michel Godin, sur des manifestations très dures, avait fait procéder à 2 000 gardes à vue.
Frédéric Pechenard, s'il y a une erreur stratégique grave que vous dénoncez ce matin, c'est la faute à qui ?
Écoutez, moi
est-ce que le ministre de l'Intérieur doit remettre sa démission ?
Je vous le dis franchement, j'ai horreur de ça. Je dis jamais c'est de la faute de l'un, de l'autre.
Il y a des responsabilités, vous pointez des responsabilités.
J'ai été dans des fonctions qui fait que je trouve que la critique est toujours facile, surtout quand on est assis tranquillement et qu'on n'est pas en poste. Je dis juste que les instructions politiques ne sont pas à la hauteur.
C'est le ministre de l'Intérieur.
Qui d'autre ?
Il est fragilisé, Christophe Castaner ?
C'est-à-dire qu'il est fragilisé par la crise et par l'absence de sortie de crise. Moi, on se focalise sur ce qui s'est passé samedi, et je le comprends. Tous les magasins des Champs-Élysées ont été détruits. Une fois de plus, on a eu des images épouvantables, et puis on attend... Enfin, le deuxième ou le troisième samedi, quand les forces de l'ordre ont décidé d'interdire les Champs-Élysées, tous les émeutiers se sont reportés sur le 17e arrondissement. La rue de Courcelles a été ravagée, la rue de Progny a été ravagée. On vit quelque chose. Moi, j'ai été plus de 30 ans policier, je vous le dis franchement, je n'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu des choses très dures, mais qui duraient un jour, deux jours, pas dans cette temporalité de 18 semaines.
Est-ce qu'il y a une volonté du gouvernement de faire durer les choses ?
Non, je ne crois pas.
C'est ce que dit Éric Ciotti dans votre camp.
Bon, honnêtement, je ne crois pas parce que je trouve que c'est extrêmement contre-productif pour le gouvernement. Mais on voit bien, en fait, je pense que le gouvernement a peur. Ils ont peur d'une bavure, ils ont peur d'un mort, et ils ont peur de donner des instructions qui permettraient à la police de reprendre le terrain. Parce qu'effectivement, le maintien de l'ordre à la française, rappelons-le, c'est pas de contact, pourquoi pas de contact ? Parce qu'on ne veut pas de blessés, on ne veut pas de morts. Voilà. Sauf que nous ne sommes plus une fois de plus dans une opération de maintien de l'ordre, nous sommes dans une opération anti-émeute, et là, il faut avoir le courage politique de dire maintenant ça suffit, et ça suffit, c'est pas déplacer un homme, sanctionner une personne, c'est donner des instructions fermes pour que la police puisse faire son travail.
On marque une petite pause, Frédéric Pechenard, le temps du rappel de l'actualité à 8h40, c'est David Doba.
Il pourrait devenir évêque émérite de Lyon. Le cardinal Barbarin doit présenter aujourd'hui sa démission au pape François. Il sera reçu en privé dans un peu plus d'une heure, 1h20 précisément. Décision prise après sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation des abus sexuels d'un prêtre. Une centaine de personnes toujours en garde à vue ce matin après les violences de samedi sur les Champs-Élysées. Selon le parquet, 93 ont été présentés à la justice. Hier, 80 magasins ont été pillés, incendiés ou dégradés. Mis en cause, l'exécutif souhaite désormais reprendre la main. Édouard Philippe, Christophe Castaner, Laurent Nunes et Nicole Belloubet seront reçus à 11h30 à l'Élysée. Matignon a reconnu hier soir des dysfonctionnements. De nouvelles mesures sécuritaires doivent être annoncées. Les nappes de fioul échappées du Grand Day américain n'atteindront pas les côtes durant la semaine. C'est ce qu'affirme un comité d'experts. Les opérations de dépollution se poursuivent dans le golfe de Gascogne avec le renfort d'un navire espagnol. Et puis les douaniers français poursuivent leur grève du zèle. Conséquence, de nouveaux retards sont à prévoir aujourd'hui sur les Eurostar. 3 trains ont même été supprimés. Des perturbations au moins jusqu'à mercredi.
Info. Frédéric Pechenard, toujours avec nous, le vice-président du conseil régional d'Île-de-France, ancien grand patron de la police nationale. Est-ce qu'il faut, comme le suggère votre patron Laurent Wauquiez, instaurer l'état d'urgence en France ? Et qu'est-ce que ça changerait ? En France ou à Paris d'ailleurs ?
La question finit par se poser. C'est-à-dire que, quelle est la solution ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Ça fait 18 semaines que chaque semaine, peu ou prou, on revoit les mêmes scènes. Et on revoit exactement la même chose. Donc il faut impérativement en sortir. Et en sortir, ça passe évidemment par une répression relativement stricte.
L'état d'urgence, ça permettrait quoi ?
Alors l'état d'urgence pourrait permettre, comme ça avait été le cas quand il avait été fait, par exemple des assignations à résidence, par exemple des perquisitions administratives. Vous savez, ce qui est caractéristique dans ce samedi, et ce qui a été peut-être un peu différent des autres, c'est que là, contrairement au tout début où on peut comprendre que le gouvernement a été surpris, là, le gouvernement savait. Le service du renseignement territorial, dès le début de la semaine prochaine, avait écrit...
Le
renseignement a bien fonctionné. Le service du renseignement territorial a dit, attention, on va avoir des débordements, attention, il y a des black blocs qui vont venir, attention. Donc là, on savait ce qui allait se passer. Et pourtant, on est resté toujours sur cette idée de maintien de l'ordre, des polices statiques, alors qu'il faut impérativement changer de stratégie et avoir une intervention dynamique.
Celui qui organise cette stratégie concrètement sur le terrain aussi, c'est le préfet de police. Est-ce qu'il faut changer le préfet de police, Michel Delpuech ?
Moi, j'aime beaucoup Michel Delpuech. Je trouve que c'est un bon préfet de police. Voilà, donc je n'en dirai certainement pas
de mal. Le gouvernement pourrait être tenté de changer le préfet de police ?
Bien sûr, évidemment.
S'il le faisait, ce serait infusible à vos yeux ?
Bien sûr. Ça serait infusible, c'est peut-être d'ailleurs ce qui va se passer, parce que le sujet, c'est pas de savoir ce que tel homme a fait ou n'a pas fait. Il peut y avoir une faute individuelle d'un policier dans la chaîne de commandement, mais je crois pas que ce soit le cas aujourd'hui. Non, le problème, c'est quel ordre on donne, qu'est-ce qu'on veut faire, et il faut que les choses soient claires.
Clairement, il faut que samedi prochain, le gouvernement interdise une manifestation éventuelle sur les Champs-Élysées.
Bien sûr, mais il suffit pas d'interdire les Champs-Élysées, parce que si vous interdisez les Champs-Élysées, une fois de plus, vous allez mettre, je sais pas, 5 ou 6 unités de force mobile pour bloquer les Champs-Élysées.
Donc on interdit quoi ?
On l'a déjà vu, et à ce moment-là, ça se reporte dans le 8e, dans le 16e ou dans le 17e. Il y a eu 2 week-ends de suite où le 17e a été mis à feu
et
à sac.
Donc on interdit tous les centres-villes de toute la France ?
Je crois qu'on interdit les manifestations.
Là, dans toute la France.
Bien sûr, compte tenu de ce qui s'est passé depuis 18 semaines.
Y compris, par exemple, une marche pour le climat.
Non. Pas toutes les manifestations. Ah. Les manifestations des Gilets jaunes.
Donc on interdit des manifestations qui ne sont pas déclarées.
Bien sûr. À tout dire, par définition, c'est pas si elles ne sont pas déclarées, ce n'est pas une manifestation, c'est un attroupement.
Donc, toute la France, pendant combien de temps ?
Le temps que ça s'arrête. Vous savez, la France est une démocratie. Ça veut dire quoi, une démocratie ? Ça veut dire que c'est un état de droit. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire un certain nombre de choses, et notamment de voter. On vote quand même souvent en France. Il y a 2 ans, on a voté pour le président de la République. Dans 3 mois, on votera pour les européennes. L'année prochaine, pour les municipales. Dans 1 an et demi, pour les régionales. Et encore dans 3 ans, pour le président de la République. Bon, c'est ça un état de droit. Et c'est certainement pas 10 000 personnes qui vont décider de ce que les gens doivent penser. Pensez aussi à la vie des Parisiens. Ça fait 18 semaines que les Parisiens ne sortent plus le samedi. Ça fait 18 semaines qu'on prend des gaz lacrymogènes. Ça fait 18 semaines qu'on peut pas aller faire nos courses, ça fait 18 semaines que les marchands ne peuvent pas ouvrir leurs boutiques. D'ailleurs, je permets de préciser que en conseil régional, mardi, nous allons voter un fonds d'1,5 million d'euros d'aide pour les boutiques et les commerces des Champs-Élysées.
Frédéric Pechner, vous évoquiez le renseignement, en l'occurrence, le ministère de l'Intérieur a évoqué 1500 individus radicaux, ultra-violents samedi. Est-ce que ces individus, à votre connaissance, ils sont connus, fichés, répertoriés par les services de renseignement pour la plupart d'entre eux. Est-ce qu'on pourrait les interpeller avant ?
Alors, bien sûr, c'est très intéressant ce que vous posez comme question. Dans les black blocs qui sont venus, il y avait des black blocs européens. Bon, moi, j'ai eu à gérer des crises qui n'étaient pas comparables à celles-là, mais notamment le G8 et le G20 à Cannes. Eh bien, à l'époque, on travaillait à la frontière pour empêcher, en liaison avec la police allemande ou la police anglaise ou la police italienne, empêcher un certain nombre de black blocs de pénétrer sur le territoire.
Et on le fait pas aujourd'hui ?
Visiblement, on l'a pas fait. Enfin, j'ai pas de scoop à vous donner, mais on l'a pas fait puisqu'on a retrouvé ces gens-là dans la manifestation. Je veux dire que quand vous voulez gérer des difficultés comme on a maintenant, il y a 3 temps. Il y a le temps avant la manifestation, le temps du renseignement, où là, on identifie un certain nombre de black blocs, peut-être qu'on peut les suivre, peut-être qu'on peut les empêcher de passer des frontières, etc. Il y a les gestions proprement dites de la manifestation, où là, il faut impérativement être plus dynamique. Et après, il y a l'après, qui est la gestion judiciaire. Alors là aussi, on a fait, je crois, plus de 8000 gardes à vue. Donc, il y a plus de 8000 personnes depuis 18 semaines qui ont été interpellées et placées en garde à vue par la police, donc pour des faits de délit ou de crime. Et il y en a à peine 5% qui sont aujourd'hui incarcérés. Ça veut dire que 95% des gens qui ont été interpellés, potentiellement, pourront être samedi prochain sur une autre manifestation. Ça va durer combien de temps ?
Frédéric Pechner, je voudrais qu'on écoute ensemble ce qu'a dit Éric Drouet, l'un des visages, l'un des leaders de ce mouvement des Gilets jaunes, après cette journée de violence à Paris.
S'il faut qu'il y ait des magasins en feu, des kiosques en feu, des banques en feu avec des gens en danger, pour que le gouvernement commence à se dire « Merde, il y a quelque chose, là, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et encore, ils ont fait une réunion de crise pour être plus sévères les semaines prochaine. C'est la seule réponse façon qu'on aura, je pense, tant qu'on fera pas de vraies actions. Je pense que le prochain truc à faire pour moi, c'est le blocage des ports et raffineries et que tous les gilets jaunes se mettent que là-dessus.
Votre commentaire, Frédéric Pechner ?
Ce que je vous dis, ça fait 18 semaines que cette personne et ses amis mettent la France à feu et à sac et ils trouvent que c'est pas encore assez et bientôt ils vont dire qu'il va falloir tuer un policier. Qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois ? Je vous rappelle, enfin, il faut quand même revenir aux fondamentaux. Nous sommes dans une démocratie. Nous défendons notre modèle. La démocratie, c'est le vote.
Ça voilà. Signifie
si les gens ne sont pas contents, après tout, sont pas contents d'Emmanuel Macron, eh bien, ils pourront voter contre lui aux européennes dans 3 mois et dans 3 ans au présidentiel. C'est notre président pendant 5 ans. C'est comme ça. Ce sont nos règles. Et je pense que tout le monde doit s'y plier. Et s'ils ne s'y plient pas et s'ils sont hors la loi, la démocratie, je le disais, c'est un état de droit. Eh bien, quand vous commettez des actes qui sont hors la loi, vous devez être sanctionné.
Mais ça signifie que, selon vous, Frédéric Pechenard, Éric Drouet et quelques autres, pour ce type de propos, pourraient être poursuivis et sanctionnés?
Alors, c'est au procureur de la République de prendre cette décision. Mais oui, il me semble que oui.
Si vous étiez vous-même, on sait que vous aviez été pressenti il y a 6 mois pour être ministre de l'Intérieur et succéder à Gérard Collomb lors des démissions de Gérard Collomb. Si vous étiez aujourd'hui à la place de Christophe Castaner, vous demanderiez des poursuites éventuelles contre ces individus?
Oui.
Oui. Vous demanderiez au procureur de la République de le poursuivre?
Absolument.
Pourquoi ne le fait-il pas, votre avis?
Je ne sais pas. Puis une fois de plus, hein, je ne suis pas du tout dans la posture de dire il faut qu'on y aurait cas. Le métier de ministre de l'Intérieur est un métier qui est extrêmement difficile. J'ai moi-même travaillé auprès des ministres de l'Intérieur, donc je sais ce que c'est. Et je me garderai bien de, si vous me permettez l'expression, de faire le malin.
Oui. Quand vous voyez la situation aujourd'hui en France, vous vous dites quoi? Que vous avez bien fait de refuser le job?
Non, c'est pas du tout comme ça que je raisonne. Vous savez, quand vous êtes policier, j'ai été à la brigade anti-gang, j'ai été à la brigade criminelle, j'ai dirigé la police nationale, c'est certainement pas la peur ou l'inquiétude ou la difficulté qui m'ont fait reculer, c'est que les conditions politiques de mon entrée au gouvernement n'étaient pas réunies.
Vous vouliez pas apparaître comme un traître à votre parti?
Il y a en partie de ça, et surtout j'estimais que le poste qu'on m'a proposé, qui n'était d'ailleurs pas celui de ministre de l'Intérieur, je ne l'aurais pas eu.
C'était lequel, pardon?
C'était d'être secrétaire d'État.
C'était celui de Laurent Nunez, voilà, le numéro 2 du ministère de l'Intérieur.
Et je pensais que compte tenu du poste, je n'aurais pas eu l'autonomie nécessaire et suffisante pour pouvoir appliquer la politique que j'aurais voulu appliquer.
Si on vous avait proposé d'être ministre et non pas secrétaire d'État, vous auriez peut-être accepté.
Écoutez, la question ne se pose pas. Aujourd'hui, je suis engagé à 100% avec mon parti. Je suis élu républicain de Paris, élu républicain de la région. Je suis sur la liste aux européennes et je suis engagé à 100% sur la liste des européennes derrière François-Xavier Bellamy.
Eh ben, on va en parler, ça tombe bien, dans un instant. Frédéric Pechenard, juste après le rappel de l'actualité, si vous nous rejoignez à l'instant même, il est 9h10, c'est David Doba.
Il y a certainement eu des dysfonctionnements, mais on a du mal à détecter les manifestants radicalisés. Déclaration ce matin sur France Info de Jean-Baptiste Djebbari, le porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Conséquence, l'exécutif promet de nouvelles mesures sécuritaires suite aux violences donc de samedi sur les Champs-Élysées. Édouard Philippe est attendu à l'Élysée, ce sera à 11h30. Matignon a reconnu hier, donc je vous le disais, des dysfonctionnements. Deux avocats déposent une nouvelle plainte contre la France devant l'ONU. Ils réclament le retour de tous les enfants encore retenus dans les camps du Kurdistan syrien. C'est une information de nos confrères de France Inter. C'est la deuxième plainte déposée en quelques jours maintenant devant l'organisation. Le gouvernement néo-zélandais d'accord sur le principe d'un durcissement des lois sur les armes, décision prise après le massacre de vendredi dans deux mosquées. Et à ce propos, l'auteur du drame affirme désormais vouloir se défendre seul à son procès. Par ailleurs, un jeune de 18 ans a été inculpé pour avoir relayé la vidéo du carnage qui avait d'ailleurs été diffusée en direct sur certains réseaux sociaux. Et puis but parisien inscrit par Mbappé et Angel Di Maria. Le PSG a dominé l'OM hier soir 3-1 en clôture de la 29e journée. Le PSG possède désormais 20 points d'avance sur Lille, son dauphin.
France Info. Toujours avec Frédéric Pechenard et Renaud Dely.
Frédéric Pechenard, les élections européennes se tiendront le 26 mai. Vous êtes donc candidat sur la liste conduite par François-Xavier Bellamy. La composition de cette liste, et notamment l'attribution à François-Xavier Bellamy de la tête de liste, a fait l'objet d'un débat en interne à droite. Quand vous voyez, par exemple, quelqu'un comme Jean-Pierre Raffarin, qui rallie aujourd'hui la liste de La République En Marche, qui soutient la liste La République En Marche, est-ce que vous ne vous dites pas qu'effectivement, comme certains le lui reprochent à droite, Laurent Wauquiez a tendance à replier les Républicains et la droite sur une base rétrécie?
Écoutez, en l'occurrence, ce reproche qu'on aurait pu faire à Laurent il y a encore quelques temps sur cette liste aux européennes, on ne peut pas lui faire. C'est vraiment une liste très ouverte, une liste de rassemblement qui va d'une droite assez sérieuse, assez dure, jusqu'aux centristes inclus, en passant par toutes les sensibilités de la droite républicaine, les jupéistes, les sarkozystes. Donc vraiment, je crois qu'on a une liste qui est une liste de rassemblement et d'ouverture, et c'est ce qui m'a plu d'ailleurs dans cette liste.
Est-ce que vous espérez que Valérie Pécresse se mouille dans la campagne et vous soutiennent au effort? Elle a été pour l'instant extrêmement discrète. Elle a juste dit qu'elle voterait LR par discipline. Presque par habitude.
Non, elle a été plus loin que ça. Elle a dit qu'elle soutenait la liste. Et en tout cas, elle m'a, en ce qui me concerne, je vais parler de ce que je sais, elle m'a tout à fait encouragé à être candidat sur la liste.
Les Républicains ont dévoilé ce week-end leur programme pour ces élections européennes qui passent notamment par les fermetures des frontières. Ça veut dire que vous voulez remettre des douaniers partout à nos frontières.
Oui, absolument. C'est-à-dire que
ça s'appelle encore l'Europe si on fait ça.
Oui, l'Europe nous a amené la paix, bien sûr, mais surtout la sécurité. L'Europe de la sécurité, c'est quelque chose qui est tangible, qui est réel. On a l'agence de police européenne Europol a fait des choses tout à fait extraordinaires. C'est dommage qu'on n'ait pas un temps long pour en parler parce que les choses ont évolué très favorablement. Le mandat d'arrêt européen, le système d'information Schengen. D'ailleurs, les Anglais en sont parfaitement conscients. Sarah Thornton, qui est la représentante de la police anglaise, a fait une conférence de presse en 2018, en septembre 2018, pour dire, attention, avec le Brexit, il faut que vous sachiez, vous, citoyens anglais, que nous serons moins bien protégés qu'avant, parce que nous n'aurons plus accès à Europol, au système d'information Schengen, au mandat d'arrêt européen.
Je reviens à ma question, vous remettez des gardes-frontières partout à nos frontières.
J'y reviens. Ouais. Par contre, incontestablement, là où l'Europe a failli, c'est dans la gestion des migrations et les gestions des frontières. Nous avons supprimé les frontières en disant, maintenant on va avoir des frontières européenne et ça nous suffira. La vérité, c'est que ça ne suffit pas.
C'est Schengen qu'il faut supprimer à votre.
Il ne faut pas supprimer Schengen. Je crois qu'il faut garder l'espace Schengen. Je pense qu'il faut faire le corps de garde frontière, de garde côte. Il faut donner des moyens plus importants à Frontex, qui est l'autre agence de sécurité. On a Europol et puis on a Frontex. Frontex, c'est la protection de nos frontières extérieures de l'Union européenne. Donc il faut monter d'un niveau Frontex. Il faut avoir un corps de garde frontière, de garde côte. Entre parenthèses, juste pour signaler que le Rassemblement National a voté contre. Donc d'un côté, il vous explique qu'il faut tout fermer, et de l'autre, il vote contre absolument tout ce qui peut être efficace en termes de contrôle des migrations ou de lutte contre le terrorisme. Mais en attendant, force est de constater que les frontières européennes et l'espace Schengen ne remplissent pas leurs devoirs, et donc pour un temps qui sera un temps plus ou moins long, nous souhaitons rétablir les frontières françaises.
Le Brexit, officiellement, c'est dans 11 jours, c'est le 29 mars. Est-ce que vous pensez, Frédéric Pechnard, qu'il faut accorder au Royaume-Uni un délai ?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça fait 17 mois, 18 mois maintenant que les Anglais sont en négociation avec l'Union européenne. On a réussi à faire un traité de sortie qui fait, je crois, 600 pages. La position anglaise est absolument incompréhensible. Moi, je comprends rien. Alors, ils sont d'accord. Après, ils votent, ils sont contre. Ensuite, ils veulent pas de traité, mais ils veulent pas non plus sortir sèchement. La vérité, c'est que je crois que les Anglais comprennent bien que la sortie de l'Europe va être pour eux une catastrophe. On voit que c'est déjà un chaos politique, et finalement ça ne fait que renforcer le sentiment profond que j'ai que l'Europe nous protège. Et le sujet, c'est pas d'ailleurs ce que la France peut faire pour l'Europe, et nous le verrons dans les années à venir, c'est ce que l'Europe va faire pour la France. Et chaque pays qui sortira de l'Europe, eh bien, se trouvera profondément affaibli, et c'est ça qui est en train de se passer pour les Anglais.
Attention, on est en train de punir les Anglais, disait hier matin, ici même à votre place, Xavier Bertrand, le patron de la région Hauts-de-France, qui lui demande justement ce report en disant arrêtons de les humilier, ils restent nos partenaires en Europe.
Bien sûr, ils restent aux partenaires, mais...
Et donc, accordons-leur quelques mois de délai, s'il le faut, pour conclure un accord avec eux.
C'est très compliqué d'accorder plus de délais, puisqu'il y a des élections européennes. Ça veut dire que le 26 mai, il y aura des élections. Si on accorde un délai supplémentaire, imaginons qu'on dise, on laisse encore 6 mois, ce qui, à un moment donné, n'aurait pas tellement de difficultés, ça signifie que les Anglais vont aller voter pour le Parlement européen. Ils vont envoyer des nouveaux députés au Parlement européen alors qu'ils veulent sortir de l'Europe. Moi, je trouve que, en tout état de cause, au-delà de la date du 26 mai, la présence des... Alors, soit ils réintègrent l'Europe, mais c'est pas du tout ce qui est en train de se passer, mais il faudra que les choses soient réglées avant la nouvelle élection, sinon ça n'a pas de sens.
Est-ce qu'au-delà du 26 mai, après les élections européennes, Viktor Orban et les élus de Viktor Orban, les élus du Premier ministre hongrois nationaliste, doivent toujours être membres du groupe PPE, comme les élus LR français ?
Eh bien, écoutez, ça se discute, je crois, le 20 mars, c'est-à-dire dans quelques jours. Nous verrons bien ce qui va en sortir.
Votre position, vous êtes favorable à l'exclusion de Viktor Orban ?
Moi, je suis jamais favorable à l'exclusion de personne. Le parti de M. Orban est au sein du PPE, qui aura, rappelons-le, aujourd'hui, la plus forte force politique en Europe. Et je pense qu'il faut faire des gestes de part et d'autre. Incontestablement, la campagne de presse qui a été orchestrée par Orban était, disons-le, pour le moins maladroite. Est-ce autant qu'il faille
Ça reste un allié. Ça reste un allié.
Ça reste oui,
ça bien sûr. N'a pas de siéger.
Son ouais. pays fait partie de l'Union européenne.
Ça reste et un tous allié les pays pour la droite française.
Et tous les pays de l'Union européenne font partie de l'Europe. Voilà,
et vous pouvez siéger sans aucune difficulté si vous êtes élu, vous, Frédéric Pechnard, dans 70 jours, aux côtés des députés européens de M. Orban.
Oui.
Oui. Ça ne vous pose aucune difficulté?
Non, aucune difficulté. Après, mon boulot, c'est pas d'être d'accord avec tout le monde. Je peux avoir des divergences extrêmement importantes, y compris d'ailleurs au sein de mon parti. Vous savez, j'ai pris des positions qui n'étaient pas toujours exactement les mêmes que celles de mon parti. Ça ne me dérange pas. Moi, je suis pour le dialogue. Moi, ce qui m'intéresse dans le fait d'être élu député européen, c'est de travailler sur la sécurité. Vous savez, ça fait 40 ans que je m'occupe de sécurité. C'est mes sujets, ça m'intéresse. Et de faire progresser l'Europe de la sécurité. Je sais très bien que au sein des députés français, d'autres partis que le mien, au sein de députés même du PPE, mais qui seront dans un autre pays, ma voix, j'espère, portera, mais tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Sauf qu'au Parlement européen, plus qu'ailleurs, c'est par le dialogue qu'on résout les choses. Donc moi, je veux persuader les gens et non pas les exclure.
Merci Frédéric Pechenard.
Merci.